Bonjour à tous et bienvenue sur le mug numéro 109. C'est l'édition spéciale du vendredi. On est sur la chaîne principale. On est donc le vendredi 28 février 2020 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, ce vendredi. J'espère que vous avez plus la pêche que moi. Je suis explosé. On a fait un tournage jusqu'à à peu près 1h, 1h30 du matin hier. Après, il a fallu que j'enchaîne la préparation du mug. Donc, écoutez, on va essayer de tenir la barre et de bien s'en sortir. C'est l'édition spéciale. On est sur la chaîne principale aujourd'hui. Certains d'entre vous se demandent bien ce que c'est que ce live. Sachez que ce live se déroule tous les jours de la semaine, mais du lundi au jeudi, ça se déroule sur la chaîne secondaire, Nowtech Live. Donc si vous aimez le concept de cette revue de presse de la technologie tous les matins, hein, pour vous réveiller, pour prendre votre café avec une petite injection de tech, eh bien n'oubliez pas de suivre la chaîne secondaire Nowtech Live. Eh bien je vous propose qu'on commence tout de suite par les news du jour, comme de tradition le vendredi. On va d'abord faire un petit récap de la semaine, les articles qui m'ont le plus marqué cette semaine, et ensuite bah, on fera les articles du vendredi. Et tout ça, c'est dans le Kawa. Et dans les news les plus marquantes cette semaine, on va aller vite parce que j'ai beaucoup, beaucoup de news pour ce vendredi. On va parler, et Guillaume en parlait hier, et c'est drôle, mais il faut le noter, dans les films, les méchants n'ont pas d'iPhone. Effectivement, les acheteurs d'iPhone sont des pigeons, mais c'est des pigeons gentils. Non, sans plaisanterie, c'est vrai que on constate, si on regarde un certain nombre de films, que les méchants dans les films ont souvent des Android et les gentils ont souvent des iPhones. Ça vient probablement d'une politique de placement de produits. Alors, de méconnaissance, mais à prendre avec des pincettes, Apple ne paye pas pour placer ses produits dans les films, ou alors ils l'ont peut-être fait, mais rarement. Par contre, voilà, ils offrent aux productions des appareils. Ils ont même été assez pionniers en la matière, puisque Apple a quelqu'un dédié à ça, qui connaît bien Hollywood et qui a placé des produits Apple. C'est vrai qu'on a souvent vu des ordinateurs, des smartphones avec le logo de la pomme dans les films, mais c'est vrai qu'ils doivent mettre une gentille pression aux productions en disant, bah écoutez, on vous file je sais pas, une vingtaine d'iPhone et 30 ordinateurs pour votre série d'espionnage, mais par contre, les méchants du film, bah, vous leur mettez pas des iPhones dans les mains. Parce que c'est de bonne guerre. C'est vrai que ça donne une image assez positive de la marque. On n'a pas en tout cas de certitude que ça soit un brief d'Apple ou une exigence d'Apple. Donc, peut-être à suivre. Mais voilà, sachez-le, si vous avez un Android, vous êtes un méchant. Si vous avez un iPhone, vous êtes un gentil. Vous avez plus d'argent, mais vous êtes un gentil, voilà. Oui, Dark Vador aurait un Android, ouais, c'est clair. Dans les news également qu'il fallait noter ce matin, c'est l'App Gallery, l'arme de Huawei pour pallier à l'absence du Google dans le Play Store. Et je vous en avais parlé, je ne sais plus quel jour, mais en tout cas cette semaine. Mais effectivement, c'est Huawei va injecter beaucoup d'argent dans cette app galerie. L'idée, c'est de rattraper le plus vite possible le Google Play Store. Et d'ailleurs, il y a une annonce, mais que je ne vous ai pas fait aujourd'hui parce que j'avais trop d'articles. Huawei a précisé d'ailleurs que les applications majeures, Instagram, Facebook et tout ça, allaient arriver, c'est juste des questions d'accord, probablement aussi des questions de chèque. Huawei, ça risque de leur coûter très cher. Il parle même d'un investissement à long terme de 22 milliards de dollars dans l'App Gallery pour en faire le troisième gros compétiteur face à Apple et son App Store, à Google et Google Play. Et donc maintenant, il y aura l'App Gallery. Ça va pas être facile de faire changer la vie des gens, mais ceux qui achèteront du Huawei auront probablement peu le choix, sauf s'ils savent bidouiller leur Huawei ou leur Honor et installer des applis Google. On continue, et effectivement, Honor, justement, annonçait pas mal de produits cette semaine. On a eu le View 30 Pro, le 9X Pro, la Magic Box, donc des ordinateurs Honor, les Magic Airbuds. Le fabricant a fait le plein de nouveautés, je vais pas vous faire tout le récap. Je crois que c'était mercredi que je vous ai parlé des produits Honor qui allaient être lancés. Donc, vous pouvez aller voir le récap. Il y avait également... Alors, on l'a pas fait puisque mardi, hélas, on n'a pas fait de mug. Puisque, bah, vous le savez, hein, on a perdu notre petit chat mardi soir et il fallait s'occuper de certaines choses mardi matin. Donc, on n'a pas fait le mug. Mais ce dont je voulais vous parler mardi matin, c'était effectivement toutes les annonces autour de Huawei, le P40, la date de lancement est confirmée. Ça sera le 26 mars à Paris, hein, qu'on entendra parler du P40. Ça va être intéressant de suivre quand même ces annonces, puisque, bah, on le sait, hein, Huawei n'est pas aujourd'hui ni en odeur de sainteté et un peu gêné par cette interdiction de produits Google suite à la guéguerre. Alors, guéguerre, c'est un peu péjoratif, mais la guerre commerciale avec les États-Unis qui ne fléchissent pas, hein, dans cette affaire avec Huawei. On y reviendra dans les articles du vendredi. Il y aura également le Mate XS, le smartphone pliable au prix de 2 SMIC, oui madame, 2499 €, sans les produits Google dessus. Le produit technologiquement a l'air assez séduisant, hein, de ce que j'en ai vu. C'est une amélioration de la première version qu'on a à peine vue parce qu'elle est sortie qu'en Chine, du Huawei Mate. Donc, pour rappel, c'est le Huawei pliable, mais pliable dans l'autre sens que le Fold, donc avec full écran externe. Ça fait un peu peur quand on connaît les problèmes de fragilité des Folds. Sera peut-être quelque chose à tester si j'en ai l'occasion, hein, je dis bien si, parce que ça commence à devenir très difficile pour moi d'avoir des smartphones. D'autres y arrivent, moi j'ai du mal. Je n'ai pas eu le flip, par exemple, mais ça viendra peut-être plus tard. Dans les news que j'ai retenues également ce matin et de la semaine, il y a eu la sortie du Sony Xperia 1 Mark II. Oui, Sony et les noms, c'est toujours une grande histoire d'amour. Premier smartphone 5G tourné vers la photo. C'est vrai que Sony est toujours dans cette situation un petit peu bizarre. C'est celui qui produit les capteurs photo pour pratiquement, je crois même tous, les fabricants, peut-être pas tous, non, mais quasiment tous les fabricants de smartphones utilisent des capteurs Sony. Et Sony a une fâcheuse tendance à lancer des smartphones qui frisent l'excellence, avec souvent un ou deux défauts qui les rendent assez rédhibitoires. Est-ce que cette année, ils vont y arriver avec le Xperia One Mark II? Ils ont mis quand même pas mal l'accent sur les capacités photo. Alors, pas tellement dans la fiche de spec, mais on verra après les résultats. Je vous le rappelle, cette année, encore plus que toutes les autres années, ne vous laissez pas éblouir par des fiches de spec, notamment photo, complètement faramineuses, avec des zooms x100 et des choses comme ça. Ce ne sont que des spécifications technologiques, c'est le résultat des photos qui compte, hein, comme d'habitude. Et cette année, je prendrai grand soin à démonter le marketing de la photo sur smartphone. Je vais même me régaler à le faire. En tout cas, à côté Sony, on aura un capteur de 12 mégapixels stabilisé équivalent à du 24 mm qui ouvre à f1.7, un module grand angle 12 mégapixels avec une optique équivalente 16 mm ouvrant à f2.2 et un module téléobjectif avec un capteur de 12 mégapixels avec une optique stabilisée équivalent 70 mm ouvrant à f2.4. Déjà, j'apprécie que Sony, eux, au lieu de nous parler de zoom fois quelque chose, ils nous donnent les équivalences en millimètres. Mine de rien, je m'y retrouve mieux, moi qui m'y connais un tout petit peu en photo. Donc, à voir. On souhaite que Sony reste dans la course, hein. Bon, après, ils sortent probablement des smartphones aussi pour vendre leur technologie à d'autres fabricants de smartphones. La dernière news que j'ai retenue de la semaine, c'est les youtubeurs francophones qui ont engrangé 103 milliards de vues. Moi, j'entends depuis que j'ai commencé YouTube des gens qui me disent « Oh, mais ton contenu, il est en français, il y a il n'y a pas beaucoup de français, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent français, qui regardent YouTube, il vaut mieux faire son contenu en américain pour faire des gros chiffres. Vous vous trompez, on a d'énormes YouTubeurs en langue française, francophone. Les scores des plus gros YouTubeurs français en termes d'abonnés, des Squeezie avec 14 millions d'abonnés, Cyprien 13,5, Norman 11,8, Thibaut InShape 6,7, Bigorneau et Coquillage 6,5, Lama Fâché 6,3, Amixem 6 millions, Mister V 5,4 millions, McFly Carlito 5,3 millions, Le Rire Jaune 5 millions, Naotech 220. Non, j'ai essayé, mais non. Tout ça pour dire, ce nombre d'abonnés et ce nombre de vues n'a absolument pas à rougir par rapport même à des gros YouTubeurs anglophones. Le problème de l'anglophone, c'est que y a beaucoup de concurrence aussi, plus de concurrence probablement. Et aujourd'hui, on compte effectivement 103 milliards de vues en 2019, ce qui est un chiffre énorme et très forte augmentation par rapport à 2018. Donc, les francophones aiment regarder du contenu francophone. Et ça, c'est plutôt bien pour la langue de Molière. On est plutôt content. Je sais, on l'écorche constamment, mais au moins, on la parle un petit peu. Donc, voilà. Normal, la plupart des Français ne parlent que français. C'est pas faux que les gens qui parlent français, mais aussi par préférence, je pense, aiment regarder du contenu en français. Ce qui a donné d'ailleurs lieu, et ne nous le cachons pas, à beaucoup de chaînes francophones qui, à leur début, ont pompé des concepts, mais pompé, j'aime pas le mot, se sont inspirés de concepts américains pour refaire la même chose en francophone. Et ça marche. Donc écoutez, on va pas se plaindre. L'humour et le gaming sont toujours en tête, effectivement, chez les YouTubers. Bon, je vais pas vous refaire l'article parce que je vous l'avais fait en début de semaine, mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour les YouTubers francophones. En même temps, c'est notre langue. Demandons aux Russes s'ils regardent des vidéos en français ou en anglais. Ben justement, Mehdi, tu te trompes un petit peu. C'est que les francophones aiment regarder du contenu francophone, alors que, par exemple, les Allemands regardent beaucoup du contenu anglophone. Dans d'autres pays où on a une autre langue que l'anglais, ils vont quand même plus regarder du contenu anglophone. Mais c'est vrai qu'en francophonie, on aime regarder du contenu en français. C'est un petit peu différent, justement. Vous avez des frises. Merde, j'ai laissé le Wi-Fi. Bon, vous avez des gros frises, là, dans la chatroom. On a des problèmes de diffusion ou pas? Oui, je sais. Est-ce que vous avez des gros frises, la chatroom? Je vais attendre un peu que la chatroom puisse répondre. Ou est-ce que ça va? Ça va, quelques petits frises, mais le son est OK. Bon, tant que le son est OK, j'ai peur que si je coupe le Wi-Fi maintenant, on risque d'avoir une coupure globale de... Mais normalement, il faut que je coupe le Wi-Fi pour forcer l'ordinateur en RJ45. Bon, après, ça peut venir de chez vous, hein, les frises, hein, n'oubliez pas. Merci de Massenro pour ton super chat. Merci beaucoup. Allez, on continue et on va attaquer justement les news du vendredi. Les news tech du vendredi, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, on va commencer à parler de Clearview. Clearview, je vous en parlais il y a une ou deux semaines. Un nouveau scandale, effectivement, pour les données. C'est une start-up qui vend de la reconnaissance faciale, notamment aux policiers, aux agences de sécurité, etc. Et surtout, le scandale vient qu'ils ont aspiré 3 milliards d'images des réseaux sociaux, les petites vignettes qu'on met avec nos têtes, pour nourrir leur intelligence artificielle de reconnaissance faciale, sans avoir l'accord des réseaux sociaux eux-mêmes, des Facebook, des Twitter, etc. Sans, bien sûr, avoir notre accord à nous, mais ça... Notre accord, on l'a donné à Facebook et à Twitter, hein, ne l'oubliez pas. C'est pas à vous de décider. À partir du moment où vous uploadez une image Twitter, Facebook, ailleurs sur le web, vous n'en avez plus les droits. Vous en gardez les droits moraux, hein, quand même, en France, mais c'est plus votre image. Faut le savoir. Mais justement, Facebook, Twitter et autres sont furax. Ils n'ont absolument pas donné l'autorisation à Clearview de le faire. Et comme une merde atteignant le ventilateur, traduction littérale d'une expression anglophone, « when the shit hits the fan », eh bien, ça ne suffit pas, puisque ils se sont fait, a priori, pirater. Alors, eux, ils disent non, mais un intrus a volé l'intégralité de la liste des clients de la start-up, ainsi que le nombre de comptes utilisateurs créés par chacun d'entre eux et le nombre de recherches effectuées sur le logiciel. Clearview aujourd'hui revendique entre 600 et 1000 clients, selon les différentes déclarations, parmi lesquels les forces de l'ordre américaines, canadiennes, indiennes, le FBI, le département de sécurité intérieure des États-Unis. Donc on va dire que c'est pas des clients, c'est pas Madame Michu, hein, c'est des gens dont effectivement s'il y a un leak des données de ces clients, avec notamment les mails des policiers ou ce genre de choses, c'est quand même extrêmement grave. Alors, Clearview affirme qu'elle ne vend son logiciel qu'à des représentants des forces de l'ordre. Elle a laissé tomber, sous la pression des Américains, son projet de rendre public l'accès de l'application. Ils assurent que les serveurs n'ont pas été attaqués et que les systèmes et son réseau n'ont pas été compromis. Ils ajoutent ensuite qu'ils ont réparé la vulnérabilité et que l'intrus n'aurait pas obtenu l'historique des recherches des forces de l'ordre, mais seulement le nombre de requêtes. Clairement, même s'ils se rattrapent avec l'annonce, tout ça, il faut le vérifier, mais c'est mauvais pour eux, déjà, qui sont quand même dans le bad buzz absolu. Les ennuis s'accumulent. Twitter et Facebook ont envoyé des mises en demeure à Clearview. À mon avis, c'est une affaire dont on n'a pas fini d'entendre parler. Ça risque d'être un très gros scandale. Dans certains États américains, des consommateurs ont lancé des recours collectifs pour violation des lois sur la vie privée. Donc, nous, en tant qu'utilisateurs, on peut quand même, voilà, attaquer Clearview pour ne pas respecter les lois sur la vie privée. Contre force de l'ordre, certaines ont découvert l'usage abusif de la technologie par certains de leurs agents, encouragés par la start-up. Donc, plein de petites poches de merde qui sont en train d'éclater autour de Clearview. Comme je vous disais, c'est très dangereux cette histoire et je pense que là, on arrive aux limites du système. ça frise, je suis en fibre, son ok. Tant que le son est bon, on va pas interrompre l'émission parce que si j'interromps, ça risque de couper, de régénérer un nouveau lien de l'émission. C'est quelque chose que j'évite de faire. Donc désolé s'il y a des petits freezes à l'image. Tant que le son est bon, comme c'est plutôt une émission à écouter qu'à regarder, vous avez le droit de regarder ma tête, hein, il n'y a pas de problème. Bah on continue. On continue et on va parler du coronavirus. Je vais pas vous faire toutes les news autour du coronavirus. Ce n'est pas le but ni le rôle de cette émission, mais on va parler des rapports avec la tech et notamment d'Amazon. Amazon qui n'est pas du tout content face aux vendeurs de masques et fait la chasse aux faux remèdes contre le coronavirus. Effectivement, Amazon a poussé une grosse gueulante contre les vendeurs tiers de son marketplace, qui profite des angoisses liées à la propagation du virus Covid-19 pour faire flamber le prix des masques sanitaires. Effectivement, on a vu des trucs assez fous, hein, je vous montre. Là, pour le coup, vous pouvez regarder. Un tweet, j'essaie de le retrouver. L'explosion, il faut que je tousse à ce moment-là, bien sûr. L'explosion des prix. Donc, Raphaël Grabi nous montre l'explosion des prix des masques chirurgicaux sur Amazon. Deux best-sellers du site, plus 130% de 15,54 € à 35,50 €. Et bien pire, des masques qui avant se vendaient à 1,73 € sont maintenant à 18,73 €. Donc, plus 1000%. Donc, certains se remplissent bien les poches avec les peurs des gens. Et effectivement, c'est de l'abus. Il y a encore pire. Hein. Il y a des masques qui se vendent à 49 €, 130 € l'unité pour des masques assez sophistiqués, réutilisables. Et justement... pour l'instant, Amazon n'a pas encore banni ses vendeurs, mais a demandé effectivement une politique de tarification équitable, de ne pas profiter de la frayeur et des mouvements de panique. Pour l'instant, excusez-moi, j'ai un truc dans la gorge. Pour l'instant, effectivement, il n'y a pas encore de vague de panique en France. Ça risque de changer, hein. Les nouvelles sont pas bonnes ce matin, hein. Il faut se préparer à une épidémie. Elle est plus que probable en France. Et on risque effectivement d'avoir des mouvements de panique, des gens qui vont acheter des pâtes, des conserves et des masques chirurgicaux. Bon, je comprends, hein, je condamne pas, mais c'est vrai que du coup, il risque d'y avoir une ruée des pénuries et des gens qui profitent toujours de ces pénuries. Pire que ça, on retrouve, si on tape le mot coronavirus sur Amazon, des guides de survie au coronavirus avec des vitamines, des bandes de détection antiparasitaires pour animaux et plein de produits complètement, enfin qui servent absolument à rien et qui se vendent comme des produits censés vous aider à lutter contre le coronavirus. Si besoin de masques, l'État en distribuera gratuitement. Ça sert à rien d'en acheter. On est prévenu dans les pharmacies. Tout à fait. Merci de le préciser, Vaya. Ne vous ruez pas. Puis alors, je vois des gens qui achètent des masques de peintre, des trucs comme ça. Ne vous ruez pas sur les masques. Si on en a besoin, effectivement, l'État en distribuera. Les pharmacies sont prévenues. Bon, est-ce qu'il y aura du stock pour tout le monde? On verra, mais... Encore une fois, hein, les mouvements de panique, ça sert absolument à rien. Ça n'arrangera pas les choses. Au contraire, ça ne fera que les empirer. Bon, je sais que c'est simple à dire, c'est moins simple à faire. On se soucie toujours de soi et de sa famille et on a envie de voilà, si vous voulez stocker de la nourriture, faites-le. Je pense pas que ça sera notre principal problème avec cette épidémie, mais bon. L'État nous a parlé que de masques chirurgicaux pour le moment, oui. J'ai vu quelqu'un faire un masque avec un soutif, ça part loin. Ça, on risque de voir... Le problème de ces peurs, c'est que ça réveille le pire en l'homme. Je ne serais pas surpris, effectivement, en cas d'épidémie, elle est fort probable en France, de voir des choses qui ne seront pas à la gloire de l'humanité. On a déjà vu des choses. Le racisme anti-asiatique latent en ce moment. Les mouvements égoïstes des gens. Même la moindre remarque, dès que vous toussez, je sais que certains l'ont fait pendant que j'ai toussé, tout ça ne contribue pas, on va dire, à un climat d'affronter ce genre de difficultés avec sérénité et surtout solidarité. Mais la solidarité, généralement, elle, on le voit, hein, des vendeurs de masques qui profitent de la situation. C'est pas ce qui ressort dans ces situations de panique, généralement. Il faut surtout pas oublier de se laver les mains régulièrement. Je vais vous dire, d'une manière générale, si ce coronavirus pouvait changer un peu les habitudes des gens qui vont au boulot, moi ça m'a toujours choqué, des gens qui vont au boulot alors qu'ils crachent la mort, parce qu'ils n'ont surtout pas, et qui passent leur journée à mourir lentement sur leur table de bureau, tout ça pour ne pas perdre. Je pense que le système, je ne sais pas comment faire, mais je trouve que le système de jours de maladie est probablement mal fait. On devrait encourager les gens qui toussent, qui ont une maladie, à rester chez eux, hein, au lieu d'aller en entreprise, de tousser dans les systèmes d'air conditionné et finalement de contaminer toute l'entreprise. Je l'ai vécu, moi. J'étais dans une entreprise de 130 personnes. On a quasiment été tous malades, alors qu'au début de la semaine, il y en avait un ou deux qui avaient la crève, quoi. Et les gens qui ne se lavent pas les mains, qui vous toussent dessus alors qu'ils sont malades, si on s'inspirait un petit peu de ce que font les Asiatiques quand ils sont malades, le masque, c'est pas tellement pour vous protéger, mais c'est surtout pour protéger les autres si vous êtes malade. Donc si on pouvait changer un peu nos habitudes, moi je sais que dans l'atelier, Karina a commencé à le faire, moi je le ferai la prochaine fois que j'ai la grippe ou ce genre de choses, de mettre un masque pour protéger les autres. C'est pas désagréable à porter. Je l'ai porté pour une de mes premières fois de ma vie cette année, un petit masque, voilà, pour protéger quand on a la crève. C'est pas inconfortable et on devrait tous le faire. Surtout avec le télétravail, on peut rester chez soi. Tout à fait. On devrait encourager les gens qui ont une petite fièvre, une petite crève, à rester chez eux. Et là, je parle même pas du corona, quoi. Ça protège même pas du virus. Avec un aérosol, ça passera à travers sans problème. Oui. Bon, on va pas rentrer dans les polémiques autour des masques qui ne protègent pas. Le masque est surtout fait, si vous avez le moindre virus qui se transmet en aérosol, de protéger les autres. C'est surtout fait pour ça, un masque, en fait. Non, mais je sais que le télétravail n'est pas possible pour tous les métiers, mais je parle justement d'une manière générale qu'on devrait encourager les gens qui ont des débuts de grippe et de crève à rester chez eux. Voilà, pour éviter de contaminer tout le monde. Quand une personne vietnamienne se fait questionner sur le fait qu'elle est chinoise ou non, la psychose, quoi. Oui, bah, moi, j'avoue que j'ai vu des trucs. C'est pas le meilleur de l'homme qui sort, hein, dans ce genre de situation. C'est clair. Allez, on continue. On va parler justement de Huawei. Justement. Voilà. Pas justement, on parlait tout à l'heure de Huawei et effectivement, on va dire un petit peu leur manière de lutter contre le blocage américain. Et là, a priori, Huawei a annoncé l'implantation en France de sa première usine de production hors de la Chine. Liang Wei, le président de Huawei, a annoncé jeudi 27 février 2020 l'implantation prochaine d'une unité de production dans l'Hexagone, une première hors de Chine. Elle sera dédiée à la fabrication d'équipements réseau 4G, 5G. L'objectif pour Huawei, c'est d'y fabriquer à terme l'ensemble de sa production à destination du marché européen, soit 1 million d'euros de valeur qui seront générés chaque année. Ils annoncent là donc un investissement important qui dépasse les 200 millions d'euros pour la première phase du projet, acquisition des terrains, construction de l'usine et achat des équipements. Sans parler effectivement des retombées économiques pour la région qu'ils choisiront pour la construction de cette usine, ça sera quelques 500 emplois qui seront créés. L'usine sera quand même hautement automatisée, hein. Cette usine devrait participer aussi bien à la production qu'aux efforts du groupe en matière de recherche et développement. Huawei dit qu'ils ne font pas ça pour contourner l'embargo américain. Ouais. On va dire que mon silence est éloquent. C'est une bonne manière, finalement, effectivement, de contourner l'embargo américain et surtout de faire du lobbying. Ça sera difficile pour la France avec des usines Huawei qui s'installent chez eux, qui créent des emplois, de dire bah non, on n'utilisera pas de l'équipement Huawei dans nos réseaux. Ça va devenir plus difficile. Donc, non, moi j'ai bien 200, tu sais, 200 millions d'euros. C'est là où notre vision, elle est un peu faussée. On parle de milliards souvent, etc. Mais 200 millions d'euros, c'est beaucoup, beaucoup d'argent, hein. Pour construire une usine, acheter le terrain, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. C'est la première phase, je vais bien préciser, c'est la première phase du projet, les 200 millions d'euros. Donc, à voir, bien évidemment, on ne peut être que content. Enfin, peut-être pas que content, mais on est content quand même que des usines étrangères, de grands groupes internationaux s'implantent en France. C'est bon pour notre tissu local, notre tissu économique. C'est des bonnes choses. Après, effectivement, je pense qu'il faut pas être ultra naïf. Huawei, il y a une partie de communication vis-à-vis de l'Europe d'implanter sa première usine hors Chine en Europe. Ça, c'est clair. Ils font sur Twitter des messages du genre « Nous avons investi presque 250 entreprises en France. » Font des Oui, c'est des opérations de séduction. Mais est-ce qu'on va les blâmer de faire des opérations de séduction? Huawei est une entreprise comme une autre. elle se débat par rapport à l'embargo américain. Huawei, soyons clairs, sans l'embargo américain, Huawei serait aujourd'hui, par exemple, le leader dans les smartphones. On va pas se le cacher, hein. Huawei, aujourd'hui, a des chiffres énormes malgré l'embargo. S'il n'y avait pas eu l'embargo américain, et on peut se dire qu'il y a certainement des relations de causalité à ça, est-ce qu'on les empêche de devenir le leader mondial? C'est pas à moi de répondre, à vous de vous faire un avis, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une entreprise d'une réussite fulgurante, Huawei. C'est énorme, c'est gigantesque. Et on est dans des chiffres, même Apple, alors Apple, c'est autre chose, Apple, c'est des champions, on va dire, de la rentabilité du profit, mais en termes de volume, c'est incroyable, Huawei. Après, effectivement, ils ont un marché interne asiatique qui est absolument énorme aussi. J'ai entendu que chez Orange ne voulait pas utiliser les antennes 5G chez Huawei. Ben, c'est pas tout à fait vrai, puisque effectivement, en fait, je pense qu'on va arriver plus à des solutions un peu à l'anglaise. Où, là, tu vois, j'ai Bouygues Télécom SFR font déjà appel à Huawei sur la 4G, ils veulent reconstruire ce partenariat. Alors, peut-être qu'Orange ne veut pas. Oui, je crois qu'Orange, ils veulent passer avec Samsung pour la 5G. Mais je pense qu'on arrivera à des solutions à l'anglaise où on va panacher. Il y aura une partie de l'équipement qui sera Huawei, mais peut-être que les équipements, on va dire, vitaux, seront pas forcément Huawei. À voir. À voir, effectivement... comment ça se passe. Bon, en tout cas, c'est probablement, on va dire, une bonne nouvelle pour la région qui va accueillir l'usine de Huawei. Oui, ils sont très diversifiés, hein, ils font énormément de choses, hein, Huawei. Finalement, les smartphones Huawei ne sont qu'une petite partie de leur activité. C'est comme Samsung, hein. Samsung fait des bateaux comme il fait des smartphones. Orange utilise uniquement Nokia et Ericsson. D'accord, je ne savais pas. On ne pourra plus jamais leur fermer la porte. Mathieu, en même temps, aujourd'hui, alors après, on peut lutter contre la mondialisation. Ça, c'est une chose. Mais aujourd'hui, les gouvernements en place et le système économique qu'on a adopté, c'est quand même la mondialisation, l'économie mondialisée. On ne peut pas dire... Enfin, ce serait incohérent de dire non à des entreprises chinoises qui veulent ouvrir des usines en France et en même temps de se plaindre de la fuite de notre économie en Asie. Ça tiendrait pas debout. Il y a un moment, faut savoir ce qu'on veut. Et des usines qui créent des emplois en France, on va pas leur exiger d'être françaises aussi, parce que alors, sinon, on va vite se retrouver comme un pays à la con, très très loin dans la compétition, quoi. Donc, bon, on va pas partir là-dessus parce que je sais que ça froisse certains d'entre vous. Je veux pas trop partir sur la politique, mais on est plutôt content quand une entreprise étrangère... nous, contrairement aux États-Unis, on n'a pas mis un embargo sur Huawei. Donc, après, il peut y avoir une décision politique française de dire... Embargo Huawei, les entreprises françaises n'ont pas le droit de travailler avec Huawei. À ce moment-là, ça serait plus difficile pour eux d'ouvrir une usine ici, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Le Wi-Fi par satellite, ça sera quand d'après toi? Je pense que les coûts des satellites, même si ça va baisser avec des grands... On n'est pas encore à envisager même un remplacement des réseaux actuels par du réseau par des satellites. Les réseaux par satellite seront là pour les endroits où les autres réseaux ne passent pas, quoi. Oui, effectivement, on avait même fait la news de Maya en Allemagne. Il y a un gros projet Huawei pour faire des universités d'ingénieurs chinois. Donc... pas d'embargo, mais une surveillance. Depuis, oui, mais c'est normal de surveiller. Et puis, je pense qu'on ferait bien de surveiller les entreprises américaines aussi, hein, en termes de sécurité. Ce n'est pas une mauvaise idée non plus. Et je peux vous le dire, en fait, on le fait, hein, déjà. C'est normal. C'est normal, c'est normal. On continue. J'ai passé beaucoup de temps sur cet article. On va parler, on va reparler de YouTube, mais cette fois de YouTube et la musique. Les ayants droit en France veulent tuer l'écoute gratuite de musique sur la plateforme. La SNEP, qui est le syndicat national des éditeurs phonographiques, qui ferait bien de changer de nom parce que le syndicat national des éditeurs phonographiques, ça sent un peu la naphtaline. Hein. On imagine le gramophone avec la vie en rose d'Edith Piaf qui passe avec des vieux messieurs qui disent « Il faut protéger la musique ». Bref. Bref, ils se sont trouvés un nouvel ennemi, c'est YouTube. D'après le président du syndicat, la plateforme représente 47% du temps passé à écouter de la musique en France, tout en ne représentant que 11% des revenus de la musique en streaming. Le problème, c'est que l'essentiel de l'écoute de musique sur la plateforme se fait gratuitement, puisqu'il est possible d'accéder de la sorte à presque n'importe quel morceau de musique jamais écrit, même quand on n'est pas abonné à YouTube Music. Il y a des offres payantes. Moi, par exemple, je suis sur YouTube Music avec YouTube Premium. Vous avez à la fois pas de pub sur YouTube et en même temps accès à leur catalogue musical. Et pour cette partie abonnement, Google, YouTube payent la même chose que les autres, les Spotify payent la même chose en termes de rémunération. Le problème, c'est sur les écoutes gratuites. Les écoutes gratuites, là, YouTube ne verse que très très peu d'argent sur les écoutes gratuites aux ayants droit. Et comme le dit la directrice de Deezer France, Alix de Gemini, c'est compliqué quand on rémunère au moins 10 fois plus de monde de la musique qu'eux. On fait avec nos armes, des playlists, des podcasts, des algorithmes de différenciation, une bonne expérience utilisateur face à une concurrence déloyale. Donc, il n'y a pas que la SNEP qui est Furax, mais également les compétiteurs en termes de musique streaming qui disent « Pourquoi YouTube verse aussi peu d'argent dans le système ?» Alors que bah, aujourd'hui, ça représente une consommation énorme, hein, 47% du temps passé à écouter de la musique en France. Alors, les ayants droit ne semblent se réveiller que maintenant. Ce n'est pas un hasard. Le SNEP semble mettre beaucoup d'espoir dans la capacité de la directive européenne sur le droit d'auteur pour forcer YouTube à changer de modèle. À en croire la SNEP, si tout se passe bien, YouTube pourrait rapidement verser une contribution deux fois supérieure à celle qu'elle verse actuellement. Et les internautes, vous, auront vraisemblablement de plus en plus intérêt à s'abonner s'ils veulent pouvoir continuer à écouter leurs playlists, leurs artistes préférés. Donc, l'écoute de musique gratuite sur YouTube, ça va peut-être devenir un petit peu plus compliqué. Ils vont peut-être vous planter de la pub au beau milieu du morceau, ou ce genre de choses, ou qu'on puisse écouter qu'une partie d'un titre à voir. C'est faux, il y a YouTube Premium et des pubs sur les vidéos. Mais c'est le problème, Mehdi, c'est que même si YouTube se fait de l'argent avec les pubs sur la consommation gratuite, il ne verse que très peu d'argent sur cette consommation-là. Très très peu d'argent aux ayants droit. Ça serait intéressant de voir s'ils ont la même règle qu'avec les YouTubeurs qui font de la vidéo, où nous, 55% des revenus publicitaires de nos vidéos nous reviennent, 45% sont gardés par YouTube. Est-ce qu'ils font la même répartition avec les artistes, les ayants droit musicaux? J'allais dire les artistes musicaux, c'est un peu le problème du marché, c'est qu'il y a beaucoup d'ayants droit sur la musique et pas que les artistes qui ont fait la musique. Mince, il va falloir refaire tes vidéos sur les chiffres YouTube. Ah ben mince alors, Olek. Partie 3. Ah là là, mais cette fois je suivrai ton conseil, Olek. On appellera ça la vidéo « L'argent de YouTube ». Point d'exclamation. Pour faire encore plus de vues. Tiens, j'ai une question pour toi. L'heure affichée sur l'écran de Jérôme est correcte, sur celui de Guillaume est énorme. C'est juste que chacun a fait un petit peu sa petite cuisine d'interface avec OBS. Effectivement, Guillaume, il a pris une grosse horloge. On va dire que c'est une certaine liberté créative que Naotech laisse à ses présentateurs de... Alors, Marion et moi, comme c'est moi qui ai programmé l'OBS de Marion, je fais la même taille. Mais Guillaume a envie d'une horloge plus grande. Et c'est son droit. C'est son droit fondamental. Arrêtez de vous bloquer sur des détails. Allez, j'ai compris après. Là, il y a beaucoup de gens qui posent des questions qui sont hors article. C'est difficile. Là, on est déjà 8h40. J'ai pas fini mes articles. C'est difficile de faire les articles, lire la chatroom en même temps. Donc, gardez toutes vos questions pour la fin. On terminera probablement tard ce matin. Mais je ferai un camp de fac et je serai là pour répondre à vos questions. Allez, on continue. Ah ouais. Bon, il y a des articles que je vais supprimer tout. Parce qu'on n'aura pas le temps de les faire. Parce qu'il y en a un que j'aimerais bien faire quand même. Allez, là, je vous fais un article, ça va être très court. C'est effectivement, on apprenait hier, donc je fais la news aujourd'hui, nos amis de Shadow, avec les Shadow PC, dont on va parler tout à l'heure, puisqu'ils sont sponsors, ont une mauvaise nouvelle. Effectivement, les applications iOS vont disparaître de l'Apple Store. Puisqu'effectivement, une partie spécifique des conditions de l'App Store d'Apple, ils ne correspondent pas à une partie spécifique des conditions de l'App Store d'Apple. Alors, j'ai vu un peu, puis beaucoup de gens m'ont tweeté, « Oh, t'as vu, tu vas plus pouvoir jouer Overwatch sur ton iPad ?» Eh ben si, parce que moi, j'ai déjà les applications. Elles vont pas être arrêtées, genre, vous pourrez plus utiliser l'application. Donc, c'est pour ça que hier... Shadow donnait le conseil de télécharger leurs applis tant qu'elles étaient encore disponibles. Là, et ça va sans doute être temporaire, parce que moi je connais Shadow depuis longtemps, ils ont déjà eu des blocages Apple. Simplement là, c'est la première fois que on fait un article là-dessus et que les gens en parlent. Apple est très touchy sur cette histoire de cloud gaming. Je pense qu'ils savent pas trop sur quel pied danser chez Apple, parce qu'ils voient bien qu'il y a de l'argent qui circule. Je crois pas qu'on puisse s'abonner à Shadow directement à travers l'application. Donc, Shadow ne verse pas 30% de votre abonnement à Apple. Ça doit gêner un petit peu Apple. Je pense qu'Apple va obliger Shadow à mettre un système d'abonnement in-app à Shadow, qui sera probablement plus cher que si vous le faites pas dans l'application, pour pouvoir toucher 30%. sur ces abonnements. C'est peut-être ça qui coince. Et j'ai trouvé ça un petit peu injuste. Bon, c'est vrai que je défends un peu Shadow parce que c'est notre sponsor, mais aussi parce que j'aime bien Shadow. C'est pas notre sponsor par hasard. Je les suis depuis leur départ. Précisons quand même que GeForce Now, Stadia, n'ont pas leurs applis iOS fonctionnelles non plus. Et que eux aussi, ça coince. Et je sais, par exemple, je ne citerai pas mes sources, que chez GeForce Now, ils ont beaucoup de mal à avoir leur application iOS. Et ça, ce n'était pas précisé dans l'article. Apple ne veut pas de concurrence. Le truc, c'est que Apple, il ne faut pas les voir forcément comme des grands méchants. De toute façon, aujourd'hui, ils n'ont pas... Alors, bien évidemment, ils ont Apple Arcade, mais enfin, Apple Arcade et Shadow PC, ça n'a juste rien à voir. Ce n'est pas le même public. Est-ce qu'Apple fait ça pour protéger Apple Arcade? Ce n'est pas une bonne façon de faire. À suivre, moi, je pense que dans pas longtemps, l'appli iOS de Shadow reviendra. Donc, pas de mouvement de panique ou de se dire « Oh là là, il n'y aura jamais Shadow sur l'iPad et sur les iPhones ». Je pense que c'est temporaire. Mais c'est vrai qu'Apple, c'est pète-couille pour ça. Quand ils ont décidé de bloquer des apps, c'est très rapide et il n'y a pas beaucoup de place pour un débat. Apple crée leur Mac en ligne. Je pense que ça viendra chez Apple. Je partage ton opinion. Je pense que Apple va avoir une offre de Mac sur le cloud. Peut-être pas tout de suite, mais je les vois bien lancer une offre avec des Mac Pro bien puissants en ligne. Ça serait très pertinent, hein, d'ailleurs, de la part d'Apple. Mais c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Je voulais terminer en vous parlant quand même du Fuji X-T4, parce que certains d'entre nous ont la passion de la photo ou de la tech autour de la photo. Le X-T4 est un appareil intéressant. Fuji est presque une marque à part. C'est un peu le Leica sans les prix Leica pour moi. C'est une marque Fuji, je vous avais fait le test du X-T3 l'année dernière, qui est à une manière d'aborder l'interface photo. Merci Arnaud pour ton super chat. Apple grand méchant, sont-ils sur Android? Bien joué Arnaud, bien vu. Mais c'est vrai que pour ceux dans la chatroom notamment qui ont des Fuji, c'est une marque à laquelle on s'attache, qui a une approche notamment de la photo dans les réglages qui est très différente de ce qui se fait sur les autres appareils photo. Enfin, très différente. Une approche spécifique. C'est une marque qui a beaucoup de personnalité. C'est ça que je veux dire. Et c'est vrai que le X-T4, je vous dis tout de suite, je fais mon test là en direct. Si j'ai l'occasion, je ferai certainement un test en faisant des images. Mais mes impressions, en tout cas sur le X-T4, c'est que c'est un appareil séduisant parce que le X-T3, qui était déjà un très bon appareil, ils l'ont pour moi amélioré, en tout cas pour moi, en ajoutant la stabilisation du capteur, un écran réversible, qui est une chose qui est hyper importante pour nous qui faisons de la vidéo. Ils ont ajouté une meilleure batterie. Rien que ces trois trucs, c'était pour moi les trois défauts du X-T3. Alors bien évidemment, ils n'ont pas changé énormément de choses par rapport au X-T3. Si vous avez un X-T3, ça sera probablement pas la peine de passer au X-T4. Mais ce genre de petit changement, moi, c'est ce que j'attends. Parce qu'on me dit, oui, mais à ce prix-là, tu peux avoir l'A7 III. Oui, mais l'A7 III, il n'a pas d'écran réversible. Et ça, c'est un truc qui me gêne. On travaille aujourd'hui avec des Nikon Z6. Ils n'ont pas d'écran réversible. Je peux vous dire, pour moi, c'est difficile de ne pas travailler avec des écrans réversibles. C'est une habitude que j'avais avec les Panasonic. Donc, rien que ça, c'est quelque chose d'hyper important. La stabilisation, c'est quelque chose d'hyper important en photo, mais encore plus en vidéo. Donc, les gens qui disent « c'est pas une grosse évolution le X-T4 », je suis pas d'accord avec eux, mais ça dépend effectivement de tes priorités par rapport à un appareil. Après, mon opinion, c'est que cet appareil est un petit peu cher. Chez Fuji, on ne fait que de la PSC, ils n'ont pas de full frame. Leur très haut de gamme, c'est du moyen format, donc encore plus grand que les full frame. Mais, on va dire, dans leur gamme X, ils ne font que de la PSC. 1 700 €, je crois que c'est à peu près ça le prix. 1 700 €, je ne voudrais pas me tromper. Le boîtier nu, je trouve ça un petit peu cher face à la concurrence. Pour ce prix-là, vous avez un Z6 Nikon full frame, vous avez un Sony A7 III, vous avez des full frame hybrides pour le prix d'un APS-C. Donc en fait, quelqu'un qui aime Fuji, qui est habitué à Fuji, ça va pas le décourager. Mais je suis pas sûr qu'ils aient une bonne politique tarifaire pour faire rentrer de nouvelles personnes dans l'écurie Fuji. Pour moi, il faudrait qu'il soit 300 € moins cher. Il est à 1 800 € nu. Je trouve ça cher, effectivement, pour de la PSC. Je le dis franchement. Après, c'est le plus beau des appareils. Moi, je trouve que le look des Fuji est magnifique. C'est un appareil de hipster, mais c'est joli, du coup. C'est un appareil qui a un charme très particulier. Je trouve qu'il a du style et de la personnalité. Moi, j'ai très envie de craquer pour un X-T4, je vous le cacherai pas, parce que le X-T3 que j'avais testé me manque beaucoup, notamment en photo. Voilà. Les objectifs sont plutôt moins chers que les objectifs plein format. Oui, Julien, mais ils ne sont pas d'aussi bonne qualité que les objectifs full frame aussi. La gamme Fuji, elle est bonne. Il n'y a pas d'objectif incroyable, pour moi en tout cas, dans la gamme Fuji. Je suis passé au X-T3 après de nombreuses années sur le Leica M. Ça n'a rien à voir. Non, mais là-dessus, je compare pas. Là où je compare à Leica, c'est que pour moi, Fuji est de plus en plus être en train de devenir un marché à part dans la photo. Et certainement moins affecté par la concurrence que le sont les Nikon, les Canon, les Panasonic qui se battent entre eux. Fuji, il a ses fans. les cas, ils ont leurs fans qui bougeront pas. Je pense. Il y a le 90 mm f2 qui est exceptionnel. Oui, non, mais j'ai pas dit qu'il n'y avait pas des très bons objectifs. Mais rien que justement en ouverture, t'as pas. Est-ce qu'ils ont des f1.2 ou des. Enfin, des vraiment super premium. Bon, après, c'est des objectifs en full frame qui valent un rein. Hein. C'est des objectifs à 8 000 € et des trucs comme ça. Mais ils n'ont pas tellement ça chez Fuji pour l'instant. Bah, des objectifs incroyables, pour moi, c'est des objectifs comme le Nikon dont on vous avait parlé, qui ouvre à f0.95. C'est des objectifs qu'on va voir, qu'on est en train de voir émerger sur les hybrides chez Canon, chez Nikon, et qu'on verra peut-être émerger sur les L. Ça risque d'être un petit peu plus difficile pour Sony, qui a une monture plus petite, plus ancienne, donc qui va pas permettre d'aller aussi loin sur les objectifs, à mon avis. Je vais pas me faire des amis en me disant ça, mais on verra. On verra dans 2-3 ans les objectifs que proposent Nikon et Canon sur leur gamme hybride. Comme eux, ils ont changé de monture et qu'ils ont mis une monture énorme, ça permet d'offrir des possibilités en termes de technologie optique et d'optique, des trucs de ouf, mais vraiment. S1 et S1H, j'ai pas craqué. Honnêtement, là, on est en train de parler d'autres gammes de prix. Le S1H, il est à 6 000 €. Les objectifs, ils valent une blinde. Pour l'instant, je dirais qu'il n'y a pas assez de compétition dans les objectifs pour les S1 pour que je craque vraiment. Nous, de toute façon, pour l'instant, on travaille avec les Z6. On en est très content pour ce qu'on leur demande de faire. On continue à travailler avec les GH5. Ça, il faut pas l'oublier. Ça reste quand même notre appareil de base. 50% de notre production est faite avec les Z6. 50% avec les GH5. Donc, pour l'instant, notre workflow est assuré. Donc, je suis pas à la recherche d'une nouvelle caméra pour la chaîne. Le X-T4, je reviens là-dessus, m'intéresse presque à un niveau plus personnel. C'est un appareil que j'avais beaucoup aimé en vacances, le X-T3, et je serais limite à me faire un petit plaisir à me prendre le X-T4 pour mes prochaines vacances. Pas juste, je vous le testerai peut-être même pas sur la chaîne, parce que j'ai envie d'un appareil pour moi et pour me faire plaisir, et pas un appareil pour le tester en fait. Donc je l'achèterai, je suis pas là à demander à Fuji de me prêter un appareil. On va voir, rien n'est... Mais j'avoue qu'il me fait de l'œil, il me fait de l'œil. Par rapport à Canon ou Nikon équivalent, ça se différencie en quoi Fuji? C'est difficile à répondre. Va voir mon test du X-T3. J'essaye d'expliquer en quoi ça a changé mon rapport à la photo d'utiliser un Fuji et ce que j'ai beaucoup aimé dans les réglages. Mais, par exemple, j'ai beaucoup moins aimé l'approche vidéo du Fuji que l'approche photo. Donc, pour moi, si je prenais même un X-T4, même s'ils ont fait des progrès sur la vidéo, je le vois pas comme un appareil de production pour la chaîne, personnellement. Un appareil photo qui te fait de l'œil en même temps, c'est clair. Allez, il est 8h53, on n'a même pas fait de tartines. On va être super à la bourre, mais je savais que j'avais un petit peu trop d'articles. Allez, on va quand même faire une tartine. On va la faire rapidement parce que c'est quand même assez intéressant. Mais avant, on va vous parler de notre sponsor, le Shadow PC. Et justement, aujourd'hui, nous avons un gagnant, puisque toutes les semaines, l'un d'entre vous, qui a joué en tout cas, gagne un mois de Shadow PC gratuit. Et aujourd'hui, c'est Cédric Brazehand qui nous dit « Je veux gagner un Shadow PC avec le mug Nautech pour jouer avec mon casque VR. » Alors, pour le casque VR, il va falloir que tu attendes. Hein. La VR chez Shadow, je veux pas être méchant, mais en ce moment, je pense qu'ils ont d'autres choses à faire que de développer la VR chez Shadow. Ils ont d'autres priorités, on va dire. Bon, ils ont d'autres problèmes. Donc, je pense pas que la VR va arriver tout de suite chez Shadow. Ça reste quand même une petite entreprise, hein, il faut pas l'oublier. Ils ont des capacités de pouvoir développer plusieurs choses en même temps qui sont assez limitées. Et aujourd'hui, voilà, ils ont d'autres prios, hein, l'arrivée des Ultras et des Infinite qui sont en retard, développer certaines choses. Le multi-écran, je pense que c'est prioritaire à ce qu'ils nous ont montré, parce qu'ils seront capables, effectivement, de faire des choses très intéressantes avec les casques VR. Mais aujourd'hui, tu vas pas pouvoir brancher ton casque VR sur ton Shadow. Je préfère te prévenir. Mais tu vas pouvoir essayer tout un tas de choses. Bravo à toi pour gagner. Si vous aussi, vous voulez gagner un mois de Shadow gratuit pour tester, eh bien, vous faites exactement comme Cédric, le même type de message où vous nous expliquez pourquoi vous voulez gagner un Shadow PC. N'oubliez pas de mettre les hashtags Shadow PC et le mug Nowtech pour pouvoir être que je vous trouve le vendredi matin quand je fais le tirage au sort. Merci en tout cas à Shadow d'être les sponsors du mug matinal. On les remercie beaucoup et je vous propose qu'on passe tout de suite à la tartine. Alors, la tartine aujourd'hui, ce dont je voulais vous parler, c'est un article qui m'a fait tilter sur Diablo 4, qui m'a fait tilter, que j'ai trouvé intéressant, que je voulais partager avec vous parce que c'est un peu l'occasion d'en parler avec la chatroom. C'est sur le développement de Diablo 4. Comment Blizzard met les consoles au cœur du développement. Diablo a toujours été porté sur les consoles. Je crois que même Diablo 1 avait été porté sur PlayStation. Le premier Diablo était sorti sur PlayStation, mais ça s'était toujours passé dans le sens où Diablo sort pour PC et ensuite il est adapté à la console. Diablo 4, c'est la première fois où le développement console doit être fait en même temps que le développement PC et au cœur du développement de Diablo. Et j'ai trouvé l'article hyper intéressant. S'il voulait bien... Putain, il veut pas se charger. Voilà, c'est bon. S'il veut bien se charger, je vous montre juste, parce que je vais pas pouvoir faire tout l'article comme je voulais, mais regardez ce schéma qui montre les différences que des développeurs ont quand ils abordent les problèmes d'interface entre un gamer sur PC et un gamer sur console. On a l'habitude de penser schématiquement que la différence entre un gamer PC et un gamer console, c'est il y en a un qui utilise une souris et un clavier, l'autre qui utilise une manette de jeu, donc c'est pas les mêmes précisions et ce genre de choses. Mais même sur les emplacements d'une interface, quand vous jouez à la console dans votre salon, vous êtes beaucoup plus loin de l'écran et donc les mouvements de l'œil pour lire différentes parties de l'interface sont bien moindres. La circulation de l'œil pour prendre des infos en bas à droite va demander beaucoup moins d'efforts oculaires qu'à un joueur PC qui, lui, va être devant son écran avec sa souris et qui, du coup, va devoir lever la tête, ça dépend de la taille de son écran, mais lever les yeux pour lire des infos, beaucoup plus bouger les yeux, donc perdre... Finalement, on parlait l'autre jour de la latence humaine dans les jeux vidéo. Si l'interface n'est pas adaptée à un écran proche, ça risque d'induire une latence humaine dans le jeu et de rendre l'expérience désagréable. Donc, ils sont obligés de prendre ça en compte. Alors, je lis là rapidement François qui dit « Blizzard, son ADN a toujours été PC ». C'est plus le cas. Aujourd'hui, la console et même le mobile, dans une certaine mesure, sont dans les stratégies Blizzard. Et le sont en amont, et pas uniquement de décliner leurs produits ensuite sur d'autres plateformes. Et Diablo 4, doit sortir normalement en même temps sur console que sur PC. Et même, et c'est là où je vais vous interroger un petit peu, ça va en choquer certains, mais... Quelque part, entre console et PC, la ligne de démarcation qui a été très nette pendant 20 ans, hein, entre les consoles, les PCistes et les consoleux, est en train de se blurrer, hein, de partir dans le flou. Pourquoi ? Vous avez déjà le cloud gaming, un cloud gaming comme Stadia, ou même comme Shadow PC, où vous pouvez très bien, avec une interface, lancer des jeux. Moi, j'ai joué à Red Dead Redemption sur mon Shadow PC, sur ma télé, avec une manette. Donc, comme une console. Et il m'est arrivé de jouer avec une manette devant mon ordinateur, donc avec l'écran proche, et de jouer à la manette à Red Dead Redemption. Donc aujourd'hui, le truc que le joueur console, il est toujours dans son salon, loin de son écran, avec une manette, c'est faux. Parce que c'est pareil avec Stadia. Stadia, à l'inverse, Stadia, je peux très bien jouer avec un clavier, une souris sur Stadia. Alors que c'est, on va dire, une console sur le cloud, mais je peux finalement presque plus facilement que sur une console physique y adjoindre un clavier et une souris. J'ai joué à Destiny 2 clavier souris sur Stadia. Donc, les lignes sont en train de changer. Alors, c'est là où je vais... Ah, il est déjà 9h. Je pense qu'on va terminer vers 9h15, hein, Samuel. Pas de syncope ce matin. Je voulais vous demander votre avis, surtout vos habitudes. Comment vous... Alors, ce qui peut être intéressant, c'est que vous me disiez, est-ce que vous êtes plutôt console et PC? Et que vous me disiez à côté, est-ce que vous êtes plutôt manette ou souris? Donc, console, PC, manette, souris. Je serais curieux de savoir s'il y a des gens qui sont, par exemple, PC manette ou console souris. Ça peut être intéressant. Donc, dites-moi vos préférences. Plutôt PC, plutôt console, plutôt manette, plutôt souris. Tout dépendra du jeu. On va dire sur vos jeux préférés. PC manette Elite 2, d'accord. Manette console, PC clavier souris, PC souris. Moi, j'aime bien jouer avec des souris. PC, mais pour le contrôle, tout dépend du jeu. Non, mais je suis d'accord avec vous. Moi aussi, hein, c'est pareil. Mais on va dire majoritairement, qu'est-ce que vous utilisez le plus? PC plus clavier souris, rien, d'accord, ça existe aussi. PC souris, je suis console qui se comporte comme un PCiste tout près de l'écran. Tu vois, je pense qu'aujourd'hui, il y a une nature hybride du jeu. Classique PC souris, console manette, d'accord. Console manette, je joue à World of Warcraft, donc j'ai besoin d'un clavier, c'est clair, et d'une souris. PC manette, clavier souris, manette, chill PS4, et PC c'est un peu trop sérieux. Je crois que là aussi c'est des visions un peu passéistes du jeu PC, mais c'est un avis. Hein. PC plus OTA, ça oui, alors là on est à un autre niveau. Console manette, PC souris clavier, PC manette, manette plus ergonomique. Ouais, mais moi, j'ai beaucoup de mal avec les manettes. Je vous cacherai pas, mais bon, je suis d'une génération qui n'est pas la génération boomer. Je suis de la génération X. Nous, la manette a commencé avec notre génération, mais moi, j'ai toujours beaucoup plus joué clavier-souris, notamment au FPS. Et les FPS, j'y arrive pas avec la manette. Je vois des gens qui jouent Overwatch avec une manette, ça me dépasse complètement. Je suis même incapable de jouer des persos comme Winston avec une manette. J'y arrive pas. Je n'ai aucune précision avec une manette. Donc, je crois que c'est vraiment des questions d'habitude. Ok, vache folle. La console, je la vois pas comme une machine pour jouer en local avec des... D'accord. FPS en manette, je sais rien faire avec une manette. Ah ouais, non, moi, FPS, manette, je peux pas. Hein. Ah non, 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 non. Techniquement, Philippe, je suis génération X. Je vous avais pas changé ma date de naissance non plus pour me faire rentrer dans la case boomer parce que ça vous fait plaisir. Volant avec retour de force, d'accord. Voilà, c'est déjà très spécifique, hein. Perso, ça dépend vraiment des jeux. Moi, je sais que les seuls jeux que je trouve plus agréables à la manette, ça va être des Assassin's Creed ou ce type de jeu-là. C'est vrai que les Assassin's Creed m'ont fait acheter une manette pour mon PC. Parce que je trouvais ça difficile à contrôler avec clavier-souris. On sent que c'est pas fait pour. Après, c'est pas mon type de jeu préféré quand même. Call of Duty, full manette pour moi. Ça c'est un truc, j'avoue que ça me dépasse, quoi. « Oui, non, mais je sais, Vaya, c'est un autre débat, mais je sais que boomer, c'est devenu n'importe quoi. J'ai entendu aussi sur un live quelqu'un qui disait tous ceux qui ont plus de 30 ans, c'est des boomers. Non, mec, c'est une définition quand même précise à boomer. Boomer, c'est les gens qui sont nés après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale. Mon père est un boomer. Tu joues à Destiny. J'avoue que j'ai pas trop accroché au jeu. C'est pas mon type de jeu. C'est pas mon type de jeu. Moi, mon type de jeu, je suis beaucoup plus jeu de rôle comme Divinity. J'aime beaucoup jouer à Total War, Civilization. Les jeux de stratégie me plaisent beaucoup en général. Je joue à Overwatch pour me défouler, mais je suis pas très jeu d'action. J'ai jamais été, hein. C'est pas une question d'âge. Depuis que le premier jeu sur lequel j'ai vraiment vraiment accroché, c'est SimCity. Voilà, les jeux de construction, les trucs comme ça a toujours été beaucoup plus mon truc. Moi, tous les jeux, ils doivent avoir une visée, c'est souris, clavier, manette pour tous les jeux de plateforme. Oui. Jeu de foot ou FIFA, pas du tout. C'est pas mon truc. Quand, alors, autrefois, à une lointaine époque où on se baladait encore avec des chevaux et des carrioles, quand j'étais au lycée, donc, selon à croire ceux qui croient que j'ai au moins 80 ans, non, quand j'étais au lycée, je me souviens, on jouait beaucoup à des jeux de foot, j'aimais bien, mais c'est pas un style sur lequel je suis resté. Tout dépend vraiment des gens, mais j'ai commencé à jouer avec mon beau-père sur la PS1 à Tomb Raider. Bah, tu vois, moi, Tomb Raider, c'est un jeu qui m'a beaucoup impressionné à l'époque. Moi, j'ai joué sur PC. Il est d'abord sorti sur PC. Après, quand tu joues manette versus manette. Sur des FPS en ligne, ça va. Ce qui est gênant, bah, c'est clair, en tout cas, à moins que les choses aient changé depuis mon époque, que notamment dans les FPS compétitifs, t'as quand même pas le même niveau de précision avec un clavier souris qui est extrêmement réactif par rapport à une manette. Je me trompe pas en disant ça. L'ironie, c'est que j'y ai rejoué sur smartphone. On peut trouver. Les 1 et 2. Depuis les autres, j'ai fait ça avec des ROM. D'accord. Ouais. Tu parles de Tomb Raider. Ouais. Pose-moi, Anthony, on n'est pas encore dans les camps de fac. Tu me poseras ces questions après. Oui, mais avant FIFA, il y avait. Alors, je sais plus mes années lycée. Je saurais plus vous dire exactement. C'était peut-être le premier FIFA auquel on jouait. Non, ça m'étonnerait. Je sais plus. Je suis nul en date. Franchement, ils sont désagréables, ces petits cons. Tu n'as vraiment pas tes 100 ans. Je t'emmerde, Patrick. Hein, voilà, je te l'ai servi ce matin. Tu l'as pas volé, celle-là. Hein. Ah, ça vous fait plaisir hein, quand je vous insulte. Il est 9h07, faut ranimer Samuel. Samuel, je l'ai prévenu, on va terminer vers 9h15 ce matin. Allez, on referme, c'était intéressant ce débat sur console PC, que les choses deviennent... Je suis vachement intéressé de voir le nombre de gens qui jouent sur PC mais avec une manette. Et on va voir aussi des gens maintenant qui vont jouer sur console mais avec clavier souris. Ça va être intéressant. Allez, on va passer tout de suite à la dernière rubrique de l'émission. On va passer au camp de fac. Si vous avez des questions à me poser, c'est maintenant. S'il y en a qui nous quittent maintenant parce que c'est un peu tard, n'oubliez pas que lundi, mardi et mercredi, il n'y aura pas de mug. Ça reprend jeudi avec Guillaume. Donc la semaine prochaine, ne vous affolez pas, mettez-vous vos réveils vous-même. Je ne veux pas être responsable de vos retards au boulot. Lundi, mardi, mercredi, il n'y aura pas de mug. Donc vous vous débrouillez. Vous êtes grand maintenant, vous faites votre petit déj, vous vous débrouillez sans nous. C'est bien compris. Allez, on passe à la dernière rubrique de l'émission, les camps de fac. Alors, ceux qui pensent que mes années lycée, je jouais à Pong, vous vous trompez dans les dates. Pong, ça existait avant que je sois né. Tout petit, je me souviens d'avoir vu un jeu de Pong, j'en ai jamais eu chez moi. Quand j'étais tout petit, c'était les débuts de la console Atari, avec la grosse manette, la noire. C'est ça à peu près mon époque, moi, jeux vidéo, si vous voulez resituer un petit peu. Ça tombe bien, je suis en déplacement pro la semaine. Bon, bah, au moins une personne qui est contente qu'il n'y ait pas de mug lundi, mardi et mercredi. De toute façon, je fais la grâce métier. Il y en a qui vont poser des congés, du coup. Patron, il n'y a pas de mug lundi, mardi, mercredi, je viens pas au boulot. Congé mug. Bon, pourquoi pas. Allez, je vais prendre vos questions. Je crois pas qu'il y ait de questions platinium, je l'ai vu. Pas de questions platinium, mais effectivement, Samuel vous annonce, pour ceux qui sont platinium, vous avez le sujet dans la... On va y arriver. Sur le Slack, dans la chatroom privée, enfin dans la room privée pour les Platinium, vous avez l'endroit où vous pouvez poser vos questions Platinium. Elles seront prioritaires sur les autres questions le matin. Donc, profitez-en. Vous êtes Platinium. Vous avez des privilèges. Allez, je commence à prendre des questions. Est-ce que ça existe un clavier, une souris qui peut se brancher directement sur deux PC sans utiliser un switch? Oui, mais pas en filaire. Ce clavier-là, par exemple, je l'ai présenté sur la chaîne. Tu as ici trois touches qui te permettent d'être connecté à trois ordinateurs ou tablettes ou smartphones différents en Bluetooth. Il suffit d'appuyer sur l'un des trois boutons et tu es connecté à l'appareil qu'il te faut. C'est le Logitech qui va voir le test sur la chaîne. Est-ce que j'ai connu l'Amstrad? Oui, j'ai eu l'Amstrad. J'ai eu un Amstrad. Est-ce que tu penses... Que penses-tu des montres connectées WeThings style HR? Je ne les ai pas testées. J'ai vu des bons échos. Mais je ne les ai pas testées personnellement. Donc, je ne peux pas te dire. Jérôme, est-ce que durant une session Shadow, si un lecteur CD est connecté à mon MacBook Pro, est-ce que je peux lancer un logiciel via CD sur ma session Shadow? D'abord, je ne connais pas beaucoup de jeux. Les CD, on en avait besoin pour installer l'application, parfois pour reconnaître l'application, mais le jeu ne se lançait pas directement à partir du CD. Là, honnêtement, c'est une question tellement pointue qu'il faut que tu la poses aux gens de chez Shadow. Ça m'étonnerait que tu puisses le faire. Mais je pense que tu dois être... Vous êtes peut-être trois en France à vouloir lancer un jeu sur CD, non? Si je ne me trompe pas. Là, quand même, ta question, elle est... C'est pointu, hein. C'est quoi ton secret pour être en forme le matin quand tu dors peu? J'ai pas de secret, je peux juste te dire que là, c'est difficile. En fait, ouais, c'est difficile, j'ai pas de secret. Entre le Z6 et le GH5, c'est lequel ton chouchou, tout contexte confondu? En fait, Arnaud, ta question, elle est impossible de répondre. Parce que justement, tout est une histoire de contexte. Mais pour la faire simple, pour les tournages en intérieur, ici dans l'atelier, je préfère le Z6 au GH5. Pour les tournages en extérieur, je préfère le GH5. Pour tout un tas de raisons. Pour tourner des macros et des ralentis, je préfère le GH5. Pour tourner du portrait, des beaux visages, des belles carnations, je préfère le Z6. Donc tu vois, pendant 2 heures, je pourrais te dire ce que je préfère sur le Z6 et ce que je préfère sur le GH5. Donc, ceux qui me demandent lequel est le meilleur entre le GH5 et le Z6, je dis, ah, ça dépend ce que tu fais, ça dépend le type d'image que tu as à faire. Et de plus en plus, je vais vous donner ce type de réponse parce qu'on s'éloigne de plus en plus de l'appareil à tout faire et le meilleur appareil. Ça va de plus en plus dépendre, et pour les smartphones, c'est pareil, de ce que vous voulez faire comme type de photo, si vous faites de la vidéo ou pas. Et en vidéo, de ce que vous faites comme type de vidéo ou pas. Voilà. C'est ma réponse courte. Tu, Que penses-tu de la BM Ursa Mini Pro 4,5? C'est pas des caméras dont je parle sur la chaîne, c'est des caméras pro. C'est plus Albert qui va parler de ce type de caméra. Nous, c'est des caméras trop chères pour nous. Hein. C'est peut-être qu'un jour, on s'équipera de ce type de caméra, mais pour l'instant, j'en ai pas le besoin. Beaucoup de gens me demandent, mais pourquoi tu n'utilises pas des vraies caméras par rapport à des appareils photo qui filment? Déjà, il y a une réponse simple, c'est le prix. Hein. C'est le prix. Même si je sais que maintenant, certains boîtiers, genre le S1, H se rapproche de prix de grosses caméras, mais quand même, ça reste vachement moins cher. Jérôme, recommandes-tu un bon compact autre que le G7 X Max 1000 €? Tu sais que le G7, je le conseille encore, hein. On parle bien du G7 de Panasonic parce que G7 X c'est quoi? Et c'est pas un compact, hein. C'est un appareil à objectif interchangeable. Je suis pas sûr qu'on parle de la même chose parce qu'en compact, je te dis tout de suite, j'y connais rien. Merci le tutorien pour les condoléances pour Whisky. Effectivement, ça a été un peu la tristesse de cette semaine. Et ça va être la tristesse pendant quelques temps pour nous. C'est un vide que Whisky ne soit pas là. Je ne vais pas en parler très longtemps parce que après, voilà, sujet sensible. J'ai hâte de la Surface Book 3 sorte. Tu en penses quoi? J'avoue que j'ai pas trop suivi les annonces de la Surface cette année. Je vais regarder ce qu'il y a dedans. L'ordinateur de ma maman est mort, alors j'ai convaincu de prendre un MacBook Air. Ce n'est pas un jeu, c'est un logiciel Windows qu'elle veut lancer. Le logiciel n'est pas sur Mac. Bah, une des solutions, Anthony, c'est de lui installer justement Shadow. Shadow à 13 € par mois. Comme ça, elle aura accès à un vrai PC à travers son Mac pour lancer cette application. C'est une des solutions, mais ça va te coûter 13 € par mois. Une autre solution, c'est des logiciels type Parallels, etc., qui permettent de lancer une session Windows à l'intérieur du Mac. Sinon, il y a une troisième solution. Il faut que tu ailles voir les bootcamps. Bootcamp, ça permet de rebooter un Mac avec Windows et d'installer un Windows. Attention, il va falloir que tu achètes un Windows pour l'installer. Mais tu peux très bien... Mais il faut redémarrer son Mac sur une session Windows. Mais ça marche. Moi, j'ai utilisé Bootcamp pendant pas mal d'années. Le G7X de chez Canon. Ah oui, c'est chez Canon, c'est un compact. Je suis désolé, mais en compact, j'y connais rien. Vraiment, j'y connais rien, donc je vais pas pouvoir te répondre. Va voir les tests des numériques, ils sont vraiment très forts en compact. Non, alors pour ceux, effectivement, qui n'ont pas suivi cette semaine, je le répète, Whisky, c'était notre chat. Et on l'a perdu cette semaine. Ce n'est pas de vieillesse, pas de maladie, ça a été brutal. Comme ça arrive, c'est arrivé avec mon premier chat aussi. Je l'ai perdu, voilà, 5 minutes avant, il jouait, et puis arrêt cardiaque. C'est des choses qui arrivent avec les chats. Donc voilà, j'espère avoir rassasié votre curiosité. J'ai pas envie de trop en parler parce que ceux qui ont des chats comprennent, c'est des sujets tristes. Et voilà, voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je veux tester Disney+, mais par leur appli, quels vont être le seul moyen de diffusion en France? Par Canal+, tu peux avoir Disney+ aussi. Le son grésille énormément sur les MacBook Pro Air 2018. Comment faire? Je sais plus, mais cherche sur Internet, il y a des gens qui avaient résolu ce problème. Hein. Il est 9h18, il faut vraiment qu'on arrête, ça devient indécent là. Euh, Des sujets faits ou à venir sur le live multicam. Le live multicam, peut-être que Albert vous en parlera mieux que moi parce que lui, il est en train de se monter un setup multicam. Nous, on fait pas le multicam parce que je n'aurais pas de quoi payer un mec à la régie à 8h. Enfin, il faudrait qu'il vienne à 7h du matin pour faire ma régie tous les matins et faire du multicam en solo, en même temps lire une chatroom, contrôler les cams, lire ses articles. J'y arriverai pas. Voilà. Je sais qu'après, vous avez des prodiges sur Twitch qui sont capables en même temps de jouer à un jeu vidéo, de lire une chatroom, de lire leur smartphone, de prendre une photo, de tourner une vidéo YouTube en même temps et avec leurs pieds, ils font du café. Mais moi, j'y arrive pas. Voilà. Allez, je sais même pas si on a payé l'horloge en haut jusqu'à 9h20. Allez, on se quitte, il est 9h20. On a rarement fait des mugs aussi longs. J'ai pas été très bon sur la tenue du temps. Je m'en excuse. J'espère que vous n'aurez pas de retard. Je vous rappelle, lundi, mardi, mercredi, on n'est pas là. Moi, je vous fais des énormes bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous retrouve donc vendredi prochain. Jeudi prochain, ça sera Guillaume qui sera là pour faire le mug jeudi. Je vous fais d'énormes bisous. À très très bientôt. Ciao tout le monde.